découverte du ciel à la découverte de l'univers. Les amis, bonjour, c'est Alain. Eh bien, aujourd'hui, notre émission d'astronomie accueille un invité exceptionnel que nous allons retrouver après la page d'actualité. Et l'actualité, c'est d'abord une comète, Iwamoto. Elle est passée le 13 février à 45 millions de kilomètres de nous. Elle est passée par ici, elle repassera par là en 3390, dans 1371 ans. L'actualité, c'est aussi Bereshet. Ça, c'est une sonde israélienne qui est partie de Cap Canaveral le 21 février. Elle doit se poser sur la Lune le 11 avril. Il va y avoir du monde dans le secteur, d'ailleurs, parce que l'Inde doit aussi envoyer une sonde au printemps, et puis l'an prochain, le Japon doit envoyer aussi une sonde vers la Lune. Ensuite, Hayabusa 2. Alors ça, c'est une sonde japonaise. Elle a fait un Tuchengo sur un astéroïde Ryugu. Elle s'est posée quelques secondes et elle est repartie. Mais entre-temps, avec son petit canon, elle a projeté une bille sur la surface de Ryugu. Il y a des poussières qui se sont dégagées et ces poussières ont été aspirées par un dispositif spécial et les poussières doivent revenir sur Terre en 2020. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Bon les amis, c'est maintenant le moment de retrouver notre invité. Notre invité qui aujourd'hui est une invitée, c'est Agnès Cousin. Agnès, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors, j'ai invité Agnès Cousin parce qu'elle est géologue. Alors, je sais, les amis, vous allez me dire, mais pourquoi inviter une géologue dans une émission d'astronomie, Agnès?
Eh oui.
Explique-nous ta présence indispensable dans cette émission.
Je comprends que ça puisse vous tracasser, mais en fait, c'est que j'étudie la surface de Mars.
La géologie de Mars?
Hein. Ouais.
Ah oui, Mars. Alors, on va beaucoup parler de la planète Mars. Vous savez, la planète Mars... ça a de tout temps fasciné les hommes, Mars. D'abord, sa couleur, qui était rouge, plutôt orangée, c'était le lieu de la guerre. Puis ensuite, son mouvement apparent dans le ciel, qui fait un espèce de zigzag, c'était complètement incompréhensible, au moins jusqu'à Copernic. Puis dans les années 1900, souvenez-vous, on y voyait des canaux creusés par des petits hommes forcément verts, sur une planète forcément rouge. Mais maintenant, Agnès, pourquoi on s'intéresse autant à la planète Mars ?
Mais en fait, maintenant qu'on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a eu toutes les conditions nécessaires à la formation de la vie sur la planète. Et on sait également que sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Du coup, c'est un super endroit pour aller étudier les vieilles roches qui se sont formées très peu de temps après la formation de la planète. Et c'est des choses qu'on n'a plus, nous, sur notre planète, à cause de la tectonique des plaques, justement. Donc, le peu de vieilles roches qu'on trouve, qui s'appellent des cratons, ils sont complètement déformés et tout. Donc, c'est super dur d'aller chercher les traces de vie sur Terre pour mieux comprendre nos origines également.
La tectonique des plaques, les amis, c'est lorsque des plaques s'enfoncent sur d'autres plaques. Ça donne naissance aux Pyrénées, par exemple.
Voilà,
c'est pour ça que les montagnes, mais en même temps qu'elles s'enfoncent, elles disparaissent.
Exactement, donc, voilà.
Plus des vieilles roches. Alors, Agnès, mais comment tu es venue à t'intéresser à l'astronomie? Tu étais géologue au départ.
Mais
on n'a pas d'école de géologie martienne.
Non, malheureusement, non. En fait, quand j'étais enfant, une dizaine d'années, j'ai toujours été très intéressée par l'astronomie. J'ai fait des colos d'astro et tout. Et j'étais passionnée par l'espace. Alors, au départ, pas tant que ça pour la géologie. Et c'est après coup, en fait, que je me suis un peu plus focalisée sur les planètes. Je me suis dit, en fait, je pense que c'est ça que je veux faire. C'est pas forcément aller étudier les galaxies, les trous noirs. C'est plutôt comprendre la formation des planètes du système solaire, les types de roches qu'on peut trouver, etc. Donc c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire ça. J'aurais pu faire des études de physique. Mais bon, la physique étant pas mon principal atout, on va dire, j'ai préféré faire des études de géologie et faire un Master 2, en fait, en planétologie. C'est un peu l'école de géologie du système solaire, on va dire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à étudier la surface de Mars.
Et alors, la géologie de Mars, est-ce qu'elle est vraiment différente de celle de la Terre ?
Globalement, non, hein, c'est quand même assez proche. La plus grosse différence, je dirais, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement de plaques sur Mars fait qu'on a on n'a pas forcément tout à fait les mêmes terrains, on a accès à des roches très très anciennes, et le fait qu'il n'y ait pas trop d'activité sur Mars depuis 3 milliards d'années, le volcanisme s'est éteint, tout ça, on a accès à des roches très comme si on allait dans le désert. Et...
C'est quand même les mêmes minéraux. Il n'y a pas de minéraux inconnus à la surface de la Terre.
Voilà, c'est les mêmes éléments, mêmes minéraux. Une chose qui peut varier, c'est que comme Mars est un peu plus petite que la Terre, les roches ont tendance à avoir un peu plus de fer par rapport aux roches terrestres. C'est la seule petite différence, mais on trouve la plupart des procédés terrestres et les mêmes minéraux, mêmes roches.
Et puis, bon, Agnès, qu'est-ce que tu fais exactement en tant que géologue sur la planète Mars ?
Mais en fait, moi surtout, je joue avec le robot Curiosity, qui a atterri dans un cratère qui s'appelle Gale en 2012. Et mon rôle à moi, c'est... De choisir un peu les cibles qu'on va analyser avec l'instrument qui s'appelle ChemCam principalement.
Et, on va en parler
plus tard. Ouais. Donc je participe, donc je ne suis pas la seule, hein, on fait des réunions quotidiennes par téléphone. On choisit les cibles qui peuvent être intéressantes selon les sujets. Et surtout, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est de regarder les données pour essayer de comprendre toutes les différentes cibles.
Et quand tu dis on, c'est la NASA ?
Oui, mais pas que. Il y a aussi quelques Espagnols, des Français, mais le robot est un robot de la NASA. Donc la plupart des personnes à qui on a affaire, c'est des gens, des Américains de la NASA.
Et comment tu t'es retrouvé dans cette affaire alors ?
Beaucoup de chance. En fait, justement, pendant mon Master 2, donc la dernière année d'études, j'ai fait un stage au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et le responsable du master connaissait un peu l'équipe à Toulouse et savait qu'il chercherait un étudiant, un thésard, pour l'année d'après. Et quand le sujet de thèse est sorti, il m'a dit tu devrais postuler. Je regarde l'offre, il cherchait un physicien. Vous êtes sûr ? Et bon, j'ai postulé et effectivement, dans l'équipe ici à Toulouse, ils voulaient principalement un géologue parce que c'est pour un instrument qui va étudier la géologie de Mars, c'était normal. Voilà. Et donc, suite à ça, j'ai fait ma thèse sur cet instrument et de fil en aiguille, je suis restée dans l'équipe.
Et cet instrument, il a été construit par les Français ?
Alors, l'instrument ChemCam, il est franco-américain, ouais. Une partie a été fabriquée ici à Toulouse, et une partie a été fabriquée à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. La partie faite à Toulouse, c'est la partie... Voilà, à l'IRAP, ouais.
L'IRAP, Institut de Recherche.
Recherche en astrophysique et planétologie.
Alors, c'est à Toulouse, d'ailleurs, c'est là qu'on enregistre cette émission, les amis. C'est dans la zone de Rangueil, la zone scientifique de Rangueil. Donc, tu deviens... partie prenante dans cet instrument ChemCam qui est monté sur le fameux robot Curiosity. Mais Curiosity, c'est pas le premier.
Non, c'est au moins le quatrième robot.
C'est le quatrième robot, ouais. De petite lignée de robots envoyés par la NASA. Ouais. Alors, il y a d'abord eu...
Oui. Alors, au tout début, il y avait eu les Vikings. Un petit robot viking, mais...
Il se déplaçait,
celui-là. Et oui, effectivement, non, il se déplaçait pas, il faisait... Oui, c'était des landers, pas confondre. Donc oui, il y a eu Sojourner, du coup, dans les années 90.
Oui, Sojourner, c'est la taille d'un micro-ondes, à peu près.
Oui, voilà. Après, dans les années début 2004 ou 2006, je crois que c'était 2004, il y avait les Mars Exploration Rover, Expirit et Opportunity.
Oui, alors ça, les amis, je vous en ai souvent parlé dans notre page d'actualité. Hein. Alors, c'était dans les années 2004. Alors, ouais. Spirit, il en est où ?
Alors là, il est officiellement en fin de mission, quoi. Il a eu du mal à se relever de la tempête de poussière qu'il y a eu il y a quelques mois. Et d'ailleurs, il n'a pas répondu aux plusieurs appels de la NASA. Du coup, officiellement, la mission est arrêtée,
oui. Pas pu redémarrer parce qu'il y avait des poussières qui sont mises sur ces panneaux solaires. Et ça risquait pas d'arriver à Curiosity.
Eh non, nous on a en fait comme justement les robots qui sont envoyés par la NASA ont un développement technologique quand même assez spectaculaire. Curiosity il est beaucoup plus gros que ses prédécesseurs et donc des panneaux solaires n'étaient pas suffisants pour faire fonctionner le robot et tous les instruments parce qu'il est gros. pas juste pour être gros, parce qu'il y a beaucoup plus d'instruments scientifiques à bord. Et du coup, on utilise la désintégration naturelle du plutonium. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça en français.
Oui, alors, il y a d'abord eu Sojourner, la taille d'un micro, de micro-ondes. Ensuite, Spirit et Opportunity, c'était une machine à laver. Et puis, Curiosity, notre robot, c'est beaucoup plus gros, c'est une petite voiture.
Oui, quoi. Voilà, c'est la taille d'une Twingo. Un peu plus haut qu'une Twingo, tout de même, mais c'est à peu près ce gabarit-là, oui.
Mais quand même, ils se ressemblent tous, hein. Ils ont tous un peu leur sirou, là, on dirait des insectes, là, ils se baladent avec le sirou. L'objectif, c'est le même pour tous ces robots.
Oui, les objectifs scientifiques ont un peu évolué avec le temps. Spirit Opportunity, c'était surtout prouver qu'il y a eu de l'eau qui a coulé pendant suffisamment longtemps. Donc ça, ça a été fait. Après, Curiosity, lui, c'est surtout... prouver que l'eau était là dans des conditions bonnes et pendant donc des conditions favorables à l'apparition de la vie, ça veut dire pas trop acide, pas trop froide, pas trop chaude, etc.
Alors parlons en détail maintenant de Curiosity. Curiosity avec ses 6 roues, son bras avec des instruments, sa tête avec une caméra qui regarde comme des petits yeux. Qu'est-ce qu'il y a comme instrument sur Curiosity, Agnès?
Alors, Curiosity, il a 10 instruments scientifiques qui ont plusieurs objectifs. Il y en a qui ont un objectif plutôt environnemental. Il y a l'instrument REMS qui sert un peu de météo, qui mesure la direction des vents, leur vitesse, tout ça. Après, au bout du bras, il y a 2 instruments scientifiques. Un qui s'appelle APXS, qui utilise... la spectro-X pour mesurer la composition chimique des roches, par exemple. Et on a aussi un microscope qui s'appelle MALI. Donc ça, c'est super utile pour aller voir la taille des grains, leur forme, etc.
C'est un instrument qui s'approche très près de la roche.
Voilà, c'est au bout du bras. Alors c'est un peu... C'est pas très facile à utiliser parce que pour déplier le bras, il faut s'assurer que la cible elle est bien à la distance à laquelle on pense qu'elle est, pour être sûr de pas taper le bras et tout. Donc faire ce genre d'analyse, ça prend tout de suite quelques jours. Après, on a deux laboratoires analytiques qui sont à l'intérieur du robot. Et eux, pour pouvoir faire leurs analyses, déjà, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un drill, donc un petit forage, en fait. Alors, c'est tout petit, hein, ça fait quelques centimètres de profondeur. Et donc, au bout du bras, on a un système pour faire ces forages. Et après, on a une petite pelle qui récolte la poudre créée par le forage. Et cette petite pelle, elle va amener la poudre sur le dos du rover. On a une petite ouverture qui va distribuer l'échantillon aux instruments qui sont dans le robot. Ces instruments, c'est Kemin et SAM. Alors, ces deux instruments, ils nous permettent d'accéder à la composition minéralogique des roches, mais aussi, et on a un chromatographe en phase gazeuse, tout ça, savoir un peu...
Oui, c'est des instruments classiques d'analyse.
Voilà, c'est un peu typique de ce qu'on peut avoir sur Terre. Et l'inconvénient de ces techniques, c'est qu'elles dépendent vraiment de l'activité du bras, quoi. Est-ce qu'on peut faire un forage ou pas ? Et du coup, il y a la tête du robot où il y a deux caméras. Il y a la caméra de navigation qui est en noir et blanc, et il y a la caméra Mascam qui, elle, est en couleur. Elle peut faire des images de stéréo.
Ça, c'est les images qu'on voit sur le site de la NASA.
Voilà, ça, c'est les images qui sont rendues publiques tout de suite dès qu'on les reçoit, qui sont assez spectaculaires quand même, des fois. Et il y a l'instrument, donc l'instrument ChemCam sur lequel je travaille, qui fait que c'est l'œil unique.
Alors, c'est quoi cet instrument?
Alors cet instrument, ça nous permet de connaître la composition chimique des roches et sols qu'on analyse, à la différence près que c'est nous, on peut analyser les cibles à distance. On n'a pas besoin d'approcher le bras comme c'est le cas pour APXS. En fait, ça fonctionne. On va focaliser un petit laser comme un laser pointeur. On le focalise sur la roche qui nous intéresse. Et en fait, l'impact entre le laser et la roche, ça va créer une petite étincelle. Alors, c'est pas... Des fois, sur Internet, on trouve des images avec une énorme explosion quand on tire le laser. En fait, l'impact, il fait que 300 microns, donc c'est pas énorme. Mais après, par une technique de spectroscopie, en fait, ce que la tête du rover, là, ChemCam, il y a le petit laser, mais il y a aussi surtout un télescope. Donc avec le télescope, on observe cette petite lumière et avec une technique de spectroscopie, on peut savoir la composition de la cible.
Et alors donc, je résume, on a un tir laser sur une roche, ça fait une petite étincelle et on analyse la lumière de cette étincelle.
Voilà.
On peut la porter, c'est de combien ?
Jusqu'à 7 mètres. Alors on aura une petite étincelle jusqu'à 7 mètres. Après, si on veut être quantitatif, si on veut savoir exactement la teneur de silicium de la roche, là on va plutôt faire des analyses jusqu'à 4 mètres. Mais ça nous fait quand même un gain de temps assez énorme.
Oui, parce qu'on n'est pas obligé de s'approcher.
Non, on n'est pas obligé de s'approcher. Et nous, en général, avec l'instrument CamCam, en moyenne, tous les jours, on analyse environ 4 roches différentes. Donc c'est une première dans l'histoire de la planétologie.
Oui. Cet instrument, il avait été testé sur Terre.
Oui, oui, oui. On a une réplique au sol ici. Et voilà, moi j'ai fait ma thèse sur les tests au sol de l'instrument.
Voilà pourquoi tu es partie pour Nantes.
Voilà, exactement. Et l'intérêt, c'est que souvent, quand on envoie des instruments comme ça, on les calibre sur des fausses roches. En fait, on prend une roche, on la broie et on en fait une petite pastille. Comme ça, c'est super homogène et on est sûr que ça marche. Sauf que sur Mars, c'est pas des pastilles qu'on a. Donc, moi, l'objectif de ma thèse, c'était quand on tire sur des vrais cailloux qu'on connaît, est-ce qu'on est capable de distinguer les différents minéraux qu'il y a à l'intérieur du caillou.
Donc, voilà la participation active d'Agnès. Alors, ce robot Curiosity, il est parti en quelle année ?
Alors c'était en 2011, en novembre 2011.
C'est parti de Cap Canaveral.
Oui.
Et il s'est posé
Environ 8 mois plus tard, je crois, le 6 août 2012.
Il est là-bas depuis, ça fait 7 ans quand
même.
Ah
oui.
Comment on a sélectionné la zone d'atterrissage ? Parce qu'il y a plein d'endroits pour se poser sur Mars.
C'est un processus assez complexe, en fait. Souvent, la communauté scientifique va proposer une dizaine de sites d'atterrissage qui leur plaît pour plusieurs raisons. Ça dépend des thématiques, des gens, etc. Mais on est quand même très limité par un facteur d'ingénierie, en fait. On est obligé de faire poser le robot sur une zone assez plate, plutôt vers l'équateur, etc. Du coup, ça contraint énormément les propositions des sites d'atterrissage. Et en fait, après, pour sélectionner le fameux site, il y a pas mal de meetings, en fait, qui sont d'ailleurs ouverts à tous. Et les gens qui proposent leur site présentent les avantages et inconvénients des sites. Et c'est même pas que les gens qui présentent le site. Il y a plusieurs équipes qui sont déployées pour étudier les sites proposés en détail.
Et on a sélectionné
le cratère de Gale.
Et ce cratère, c'est un cratère qui fait 154 km de diamètre, si vous voulez, à l'intérieur duquel il y a un mont qui fait 5 mètres de haut.
Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que Gale a été sélectionné au final, parce que cette montagne-là, qu'on appelle le mont Sharp, elle est quand même très intéressante parce que via les données orbitales, donc grâce au satellite qui fonctionne non-stop autour de Mars, on a pu voir que cette montagne, elle avait deux différents types de composition. Il y a la base de la montagne est plutôt riche en argile, donc ça c'est des minéraux hydratés qui se forment en présence d'eau, donc type au fond des lacs, etc. Alors que les roches déposées au-dessus, donc un peu plus récentes, c'est plutôt des sulfates. Et les sulfates, ça se forme quand il y a déjà beaucoup moins d'eau disponible liquide à la surface de la planète. Donc ça, cette montagne, ça représente clairement le changement climatique passé de Mars. Et du coup, c'est assez super d'aller voir ça in situ de plus près.
Voilà, notre robot Curiosity s'est posé dans le cratère Gale. Dans la deuxième partie de l'émission, les amis, on va voir maintenant comment Agnès travaille.
Cuando la doy yo, chiquitas cuando la gocho.
Et s'occupe en particulier du robot Curiosity. On en était resté au moment où Curiosity s'était posé sur Mars. Alors maintenant, Curiosity va commencer à travailler. On peut dire que pour toi aussi, Agnès, le travail commence.
Oui, exactement. C'était pour moi, ça marquait la fin de ma thèse en plus. Donc les vraies choses commencent, quoi. Fini les tests en laboratoire et c'est la vraie vie.
Alors il faut que tu travailles avec la NASA.
Oui.
Et comment ça se passe là? Tu es là-bas
Alors, ça dépend. En fait, on ne peut pas être toujours aux États-Unis. Tout de suite après l'atterrissage, en fait, toutes les équipes de tous les instruments sont restées 3 mois au JPL. C'est l'acronyme pour le Jet Propulsion Laboratory.
Oui, alors là, c'est là où sont commandés tous les rovers, toutes les
De la NASA. Voilà. C'est en fait le JPL, c'est la partie un peu le laboratoire technique de la NASA. Alors, c'est à Pasadena, à côté de Los Angeles, en Californie. Et du coup, c'est là-bas que sont faites toutes les réunions, etc. Donc, on ne peut pas être toujours non-stop là-bas. Donc, ce qu'on fait, on fait des réunions téléphoniques, ce qu'on appelle les téléconférences. Et ils ont déployé on utilise des systèmes assez développés où on peut même partager notre écran et tout. Ça fait presque comme si on était avec eux dans la pièce.
En étant toujours à Toulouse.
Alors l'inconvénient de faire ça,
c'est pas la même heure. Hein.
Exactement. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient parce que Curiosity étant un robot et une mission américaine, on est aux horaires américains. Et donc pour nous, quand il s'agit de travailler donc sur le robot, ça commence en général vers 17h. De 17h jusqu'à minuit, 1h, selon notre rôle ce jour-là. Donc ça fait des longues journées.
Alors comment ça se passe vraiment là, quand tu travailles avec eux? Quel est ton rôle là dans l'équipe? Parce que c'est toute une équipe, ça.
Voilà, alors ça dépend des aspects. Donc partie science, en fait, recherche, chacun fait un petit peu ce qu'il veut selon sa thématique de travail. Après, pour ce qui concerne les opérations, c'est justement pour guider le rover, choisir les roches à analyser, etc. Là, c'est par équipe. Par exemple, pour l'instrument CAMCAM, comme il est franco-américain, en fait, on se partage la garde avec les Américains. Donc, nous, on fait les opérations ici à Toulouse une semaine sur deux. Quand nous le faisons pas, c'est nos collègues de Los Alamos qui prennent le relais. Donc déjà, c'est pas mal. Et pour les opérations, donc nous, on fait ça au CNES à Toulouse. C'est pratique, c'est juste derrière le laboratoire. Et on a une équipe d'ingénieurs du CNES qui s'occupe, eux, de la santé de l'instrument, vérifier qu'il s'est bien éteint, qu'il n'a pas eu trop chaud pendant son activité, etc. Et après, il y a l'équipe scientifique. Donc en général, on est entre 2 et 4 personnes. Il y a toujours une personne qui s'occupe de ce qu'on appelle l'uplink, donc le choix des cibles, combien de points on va faire sur la cible, etc. Et une partie qui s'occupe de ce qu'on appelle le downlink, donc une personne qui va regarder les données et regarder la composition des roches analysées la veille.
C'est-à-dire qu'on analyse ce qui était fait la veille et on prévoit ce qui va se passer.
Voilà, donc ça c'est en parallèle. Mais la personne qui analyse ce qui a été fait la veille, s'il y a eu quelque chose vraiment d'étonnant, de très intéressant et tout, c'est là qu'il va dire, il faut retirer sur cette roche-là parce que j'ai vu ça, voilà. Et alors des fois, on s'est déplacé entre-temps. Et là, ça devient compliqué parce qu'il va falloir argumenter vraiment. Il faut vraiment qu'on fasse demi-tour. J'ai vu ça. Et ça, c'est quand même rare.
Oui, effectivement, il faut négocier. Quoi.
Voilà.
Ce n'est pas toujours facile de négocier avec les Américains, d'autant plus qu'il y a d'autres instruments aussi qui aussi ont des spécifications, des demandes bien précises.
Voilà. Bon, après, au jour le jour, c'est surtout CAMCAM qui travaille avec les caméras. Parce que les autres instruments qui sont dans le rover ou au bout du bras, ils fonctionnent à une fréquence beaucoup plus faible, en fait.
Alors Agnès, pour commander ce couvert, tu travailles, je suppose, 7 jours sur 7.
Eh ben, alors au début, c'était le cas. Mais après, en fait, c'est compliqué de garder les équipes d'ingénieurs, tout ça, 7 jours sur 7. C'est un sacré budget, surtout côté américain. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille aux heures américaines, mais du lundi au vendredi. Par contre, lui, le rover, il n'a pas de droit au jour de congé. Non, non, non. Lui, il travaille non-stop.
Et comment il marche alors ? Il livre à lui-même ?
Et plus ou moins, effectivement, le week-end, il fait un peu ce qu'il veut. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que le vendredi soir en France, on planifie 3 jours d'activité, en fait. On lui planifie son samedi, son dimanche et son lundi. Comme ça, nous, le lundi, quand on travaille, lui, c'est pendant sa nuit, déjà. C'est déjà le lundi soir, il a fini son job.
Qu'est-ce qu'il travaille la nuit ?
Alors, c'est...
Sur Mars, parce que, après, si, il y a le jour et la nuit, sur Mars, c'est un peu plus équivalent au jour solaire.
Oui, en fait, le faire travailler la nuit, c'est un peu compliqué parce qu'il fait très très froid. Déjà, le jour, c'est des températures bien négatives. C'est environ moins 10, moins 15 degrés. Donc, ça descend sous les moins 20. Donc, il fait quand même assez froid. Du coup, pour le faire déplacer, c'est vraiment compliqué parce qu'il faudrait réchauffer tous les moteurs qu'il y a dans les roues. Donc là, ça demanderait énormément d'énergie. Mais par contre, on a déjà utilisé quelques instruments. Par exemple, pour faire les images microscopes, on a des petites ampoules LED. On a fait aussi des analyses pour voir si on voyait du givre aussi. Voilà. Mais ça reste assez exceptionnel.
Donc notre rover, il travaille que la journée et il obéit aux ordres qu'on lui donne. Mais comment on lui donne les ordres là ?
Alors en fait, à la fin du planning, là, de 17h à minuit, quelque chose comme ça, c'est assez long parce qu'il faut déjà se mettre d'accord sur les activités et surtout, une fois qu'on est d'accord sur les activités à faire, on transforme les ordres en ce qu'on appelle des séquences. Alors c'est un langage informatique. Et là, il y a tout un processus de vérification des séquences qu'on va envoyer au rover, être sûr de ne pas se tromper. Et une fois que c'est bon, en fait, on envoie ces séquences directement au rover. Lui, il dort, il s'en rend pas compte. Et au petit matin, quand il se réveille, il allume l'ordinateur et il voit ce qu'il a à faire dans la journée. Voilà.
C'est comme avec un smartphone.
C'est à peu près pareil, voilà. Et lui, avant d'aller se coucher le soir, il nous envoie toutes ces données. Alors les données, il ne nous les envoie pas directement, il passe par des satellites. Il les envoie aux satellites et les satellites nous les renvoient.
Les satellites, ils sont
où ? En orbite autour de Mars.
Ah.
Bon, c'est entre 15 et 20 minutes selon la distance Mars-Terre. Voilà,
et comment ça se passe quand Mars est derrière le Soleil ?
Alors là, ça nous fait des vacances
parce que là,
on ne peut pas communiquer. Oui, voilà, donc ça dure environ 3 semaines. Et donc pendant ces 3 semaines-là, il n'y a pas d'activité. Voilà, et il y a peut-être quelques instruments qui restent on, comme la station météo, choses comme ça, des petites choses comme ça. Mais pendant ce temps-là, le rover, il se déplace pas et on fait pas d'analyse CamCam, par exemple.
Donc ça, c'est là que tu prends tes vacances, que tu es obligé de prendre tes vacances.
Oui, voilà, ça aide pas mal, on sait que...
Ça se passe tous les 2 ans, ça.
Oui, c'est tous les 2 ans, ouais.
Donc là, le personnel est en vacances, le rover est en vacances, et Mars ressort de derrière le Soleil, et là, on peut recommencer le
voilà.
cycle. Observation. Alors, il y a beaucoup de données là pour transmettre, parce qu'il y a plein d'instruments, il y a 10 instruments, je pense.
10 instruments. Ça fait pas mal de données, de volume de données à envoyer aussi. Et par exemple, ça arrive quelquefois, malheureusement, où on est limité par le volume de données qu'on va pouvoir acquérir le lendemain. Donc des fois, on aimerait analyser plein de cibles et on ne peut pas parce qu'on sait qu'on ne pourra pas récupérer les données. Voilà, bon, ça, c'est pas ce qui nous pose le plus de contraintes. Ça arrive assez rarement, mais de temps en temps, ça arrive. Et, en général, le rover envoie 2 fois par jour les données aux satellites qui sont en orbite. Et à chaque fois qu'il y a un satellite qui passe, on envoie entre 100 et 200 mégabits de données. Ouais.
Alors, Curiosity, ça fait quand même 7 ans qu'il est à la surface de Mars, et il a fait combien de kilomètres ?
Alors, en tout, il a dépassé un petit peu les 19 kilomètres, là, cette année.
Et comment ça se passe, là ? Il roule en continu ?
Non, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait que 19 km, on peut voir ça comme ça. C'est que on s'arrête dans des endroits qui nous paraissent intéressants d'un point de vue géologique et du coup on se déplace vraiment que pour aller d'un endroit à un autre selon les types de roches auxquelles on s'attend. Et du coup souvent il fait des petits sauts d'une vingtaine de mètres à chaque fois. Mais il peut rester 2 semaines sans se déplacer par exemple.
Ah oui, d'accord. Et les résultats là, il y a déjà eu beaucoup de tirs je suppose
Ah oui, là on a dépassé les 600 000 tirs laser en tout. Voilà, ouais, on a une base de données. C'est la base de données d'ailleurs la plus grosse de manip de Planéto.
Ah oui, ça oui. Mm. Et puis bah, il y a aussi des autres instruments qui envoient leurs données. Enfin, bon, tout ça c'est.
Il y a beaucoup de données avec Curiosity.
Et alors, il n'est pas encore arrivé au Mont Sharp. C'était son objectif, le Mont Sharp.
Alors.
C'est temps, il n'est pas encore.
Ça dépend de ce qu'on appelle le Mont Sharp. En fait, on a dépassé officiellement, on a atteint le Mont Sharp. On est sur la base de la montagne et ça se voit pas trop sur les images satellites, mais on grimpe quand même. Hein. J'ai pas la pente en tête, mais on commence sérieusement à grimper et on est arrivé là il y a un mois. Vraiment dans la zone riche en argile, donc la fameuse zone de la base du Mont Sharp dont on parlait tout à l'heure.
Et là, on a déjà des premiers résultats là.
Alors, ben oui, justement, on est arrivé dans cette zone riche en argile. On a vu que la composition des roches était complètement différente de ce qu'on avait la semaine auparavant, par exemple. Donc c'est bon signe.
Oui, et ensuite, un peu plus haut, il va arriver un peu plus haut sur le Mont Sharp. Donc ça sera encore d'autres types de roches qu'on va analyser.
Voilà, donc déjà on s'attend à ce que le type d'argile, en traversant cette unité riche en argile, on s'attend à ce que la composition des argiles varie avec la montée. Et ensuite, oui, on va arriver au sulfate. Du coup, souvent c'est le sulfate de calcium. Donc on verra des roches très très riches en calcium.
Et puis, il y a encore suffisamment d'énergie pour arriver jusqu'en haut.
Ouais, alors l'énergie, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes en ce moment. En fait, avec la désintégration naturelle du plutonium, c'est quelque chose qui est fait pour durer des dizaines d'années. Donc ça, c'est pas un souci. Ce qui va nous contraindre, mais on peut faire encore 6 ans facilement, ça sera plutôt tout ce qui est le transfert de la chaleur en énergie. C'est ce mécanisme-là qui risque de vieillir, mais... Pour le moment, on peut faire encore autant de temps tranquille sur Mars.
S'il y a des problèmes, Curiosity, du point de vue de j'ai entendu parler de problèmes.
Alors oui, au début de la mission, en fait, on a été très étonnés parce que les roues se sont trouées très rapidement. Alors, il faut savoir que les roues, elles sont quand même très fines. Hein, elles font 0,75 mm d'épaisseur.
C'est pas quelque chose, les amis.
Voilà, c'est en. Alors, si je sais plus si c'est aluminium ou titane, bon, voilà, c'est un mélange quelconque, mais c'est aussi épais qu'une boîte d'une canne. Boîte de conserve, voilà. Donc, c'est. Et en fait, on avait beaucoup de roches abrasées par les vents.
Oui, parce que les amis, quand on regarde les photos de Mars, c'est plein de cailloux. Hein.
Voilà, et ces roches étaient en forme de pyramide, en fait, et ça troue les roues. Et du coup, pendant quelques temps, on roulait en marche arrière pour les équipes au JPL, justement, ont fait des tests et se sont rendu compte que ça abîmait moins les roues quand on roulait en marche arrière. Et en ce moment, on a quelques petits problèmes de mémoire ordinateur. Donc c'est peut-être le premier signe de vieillesse du rover.
Bon, quand est-ce qu'il va s'arrêter? On ne sait pas, quoi, pour l'instant.
On ne sait pas, on n'espère pas tout de suite. On espère que ça dure encore longtemps.
Oui, parce que il va bien s'arrêter un jour, là, ce robot. Et oui, comme tous les instruments qu'on envoie dans l'espace.
Oui, malheureusement, oui.
Et les équipes qui travaillent constamment avec vont avoir un sacré coup de blues.
Ouais, il y a la relève, on pense à la relève déjà. Ouais.
Sur d'autres sujets ou des sujets similaires?
Alors, pour le moment, je suis principalement sur Mars. Je travaille pas encore sur la Lune ou Mercure. Mercure peut-être bientôt. Mais je travaille sur la relève de ChemCam, donc un instrument qui s'appelle Supercam et qui sera à bord du prochain rover de la NASA.
Ah, il y aura une
voilà.
suite alors.
Il y aura une suite, oh, voilà. Et moi, je me suis occupée à faire les cibles de calibration qui seront sur le robot. Donc, c'est des cibles qu'on analyse de temps en temps.
Donc, tu anticipes déjà le futur.
Voilà, il faut.
Oui, ben voyez, les amis, bon, alors Mars a connu des conditions dans le passé assez voisines de celles de la Terre, mais a évolué de façon totalement différente. Alors, Curiosity et Agnès nous permettent de mieux connaître l'histoire de Mars, et ça peut nous aider à mieux comprendre notre propre histoire, l'histoire de notre propre planète. Et ben, notre mission va se terminer déjà. Hein, il y a aussi que la NASA, d'ailleurs, n'hésite pas à recruter des compétences et à confier des responsabilités importantes à des citoyens qui ne sont pas américains. Agnès, merci de nous avoir consacré un peu de ton temps. Et les amis, au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Merci Agnès.
Merci.